Est-ce que bien mettre en lumière MeToo, ce sont les violences sexistes et sexuelles et la difficulté qu'a la justice à les appréhender? Et en tant que féministe engagée, en tant que citoyenne qui s'apprête à devenir avocate, c'est devenu pour moi un petit peu évident que je me servirais de cette profession pour tenter de faire avancer la cause des femmes. Et depuis que je suis devenue avocate, c'est ce que j'essaye de faire à ma façon, en me servant de mon expérience de terrain en tant qu'avocate, pour identifier peut-être des dysfonctionnements qu'on pourrait réparer en améliorant la loi pour aider toutes celles et tous ceux qui seraient victimes de violences sexistes et sexuelles et les réconcilier avec la justice.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Femmes de défi, le podcast pour cultiver l'audace. Je m'appelle Léa Lucas, je suis journaliste pour le magazine Courrier Cadre et toutes les deux semaines, j'ai le plaisir d'échanger avec des femmes courageuses, combatives, qui sont devenues des leaders dans de nombreux domaines, en dépit des obstacles. La femme que je reçois aujourd'hui est l'une des avocates les plus en vogue du moment. En 2020, elle a cofondé une association de lutte contre le cyberharcèlement. En 2022, elle a fait partie des moins de 30 ans les plus influents pour leur impact social selon Forbes. Et en 2024, elle a remporté un procès historique aux côtés de sa cliente Magali Berda, célèbre femme d'affaires française, aussi connue comme la papesse des influenceurs et victime de violentes attaques en ligne. Rachel Florpardo est mon invitée. Elle baigne dans le milieu du droit depuis toute petite, sa chambre était adossée au cabinet d'avocat de ses parents. Si en grandissant elle s'est inspirée de ces deux figures du barreau, elle a aussi su s'en démarquer, trouver sa propre voix, son propre style. Car non, elle n'est pas qu'une simple avocate, elle est une avocate 2.0, elle est féministe et activiste. Alors, comment arrive-t-elle à garder son impartialité tout en se servant de la loi pour faire bouger les lignes? Mais quelles lignes veut-elle faire bouger? Et tout cela est-il possible à seulement 30 ans? C'est parti, saison 1, épisode 4. Bonjour Rachel Florpardo.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, ma première question va porter sur votre adolescence, puisque comme vos parents, vous vous êtes lancé dans le droit. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire comme eux?
Alors, j'ai d'abord absolument pas voulu faire comme mes parents. Je pense comme beaucoup d'enfants d'ailleurs. Je voulais faire tout autre chose. C'est d'ailleurs pour ça que je suis partie étudier en Angleterre, où j'ai fait des études de commerce initialement. Et très vite, le droit m'a rattrapée. J'ai décidé de faire une licence de droit par correspondance. Et j'ai adoré ces matières, j'ai adoré les réflexions juridiques, et j'ai adoré l'univers du droit, tout simplement. En fait, je crois que, un petit peu sans que je m'en rende compte, mes parents m'avaient transmis la passion qui est la leur, c'est-à-dire défendre les autres.
Et eux, d'où ils la tenaient, cette passion
J'ai une histoire familiale qui est marquée par, je crois, des injustices qui ont nécessairement laissé des traces. Du côté de ma mère, il y a l'immigration de Tunisie de ses parents. Dans les années 60, une immigration brutale en quelque sorte. Et du côté de mon père, eh bien, notre histoire familiale est marquée par la Shoah et la déportation de sa mère, ma grand-mère, et de mes arrière-grands-parents à Auschwitz, où mon arrière-grand-père a été gazé dès son arrivée.
J'ai lu une jolie anecdote justement sur votre prénom. Rachel Flore, si peut-être vous pouvez en dire deux mots, parce que je trouve ça vraiment beau.
Oui, moi je porte un prénom composé, Rachel Flore. Rachel, c'est le prénom de mon arrière-grand-mère qui a été déportée à Auschwitz, qui a survécu avec sa fille Jacqueline. Et Flore, c'est un prénom qu'on a collé à Rachel pour que le sort de Rachel ne m'arrive jamais, comme pour rompre le sort en quelque sorte.
Alors en 2017, vous passez votre grand oral pour devenir vous-même avocate, mais dans un contexte sociétal bien différent de justement celui de vos grands-parents ou de vos parents, puisque cette année-là, c'est la vague MeToo qui déferle aux États-Unis, qui arrive jusqu'en Europe. J'ai l'impression que cet événement international a eu une influence sur votre carrière d'avocate.
Oui, c'est certain. En 2017, moi, c'est un moment où je passe le barreau, vous l'avez dit, où je m'intéresse beaucoup à l'actualité et à l'impact du droit, aux jurisprudences, à la justice en général, en fin de compte. Et ce que vient mettre en lumière MeToo, ce sont les violences sexistes et sexuelles et la difficulté qu'a la justice à les appréhender. Et en tant que féministe engagée, en tant que citoyenne qui s'apprête à devenir avocate, c'est devenu pour moi un petit peu évident que je me servirais de cette profession pour tenter de faire avancer la cause des femmes. Et depuis que je suis devenue avocate, c'est ce que j'essaye de faire à ma façon, en me servant de mon expérience de terrain en tant qu'avocate, pour identifier peut-être des dysfonctionnements qu'on pourrait réparer en améliorant la loi pour aider toutes celles et tous ceux qui seraient victimes de violences sexistes et sexuelles et les réconcilier avec la justice. Parce que je crois que renforcer, rétablir la confiance de ces victimes avec la justice, c'est absolument déterminant.
Et aujourd'hui, vous avez 30 ans, alors je le dis car votre âge a son importance. Vous racontez avoir dû vous vieillir pour être crédible. Alors ce qui est assez fou, c'est que Gisèle Halimi, grande avocate française, qui a été aussi une figure modèle un petit peu pour vous, lorsqu'elle a commencé à exercer dans les années 50, en fait, elle adoptait déjà cette stratégie et elle en parle très bien dans son livre « Une farouche liberté ». Alors je la cite, elle dit « Je me suis ingéniée à me vieillir et m'enlaidir ». Pas le moindre maquillage, une coiffure vieillotte, des vêtements discrets. Mes adversaires utilisaient très souvent contre moi le fait que j'étais une femme. Si je gagnais une affaire, j'entendais mon confrère expliquer à son client « Qu'est-ce que vous voulez ? Elle est jeune, elle a du charme. Contre la séduction, nous autres, pauvres hommes, nous sommes bien peu de choses. » Fin de citation. 70 ans après, les choses n'ont visiblement pas tant changé que ça. Alors, est-ce que je dois comprendre que les femmes ne peuvent pas être jeunes, féminines et talentueuses ?
J'espère que les choses ont évolué. Enfin, moi, je crois que les choses ont quand même évolué depuis Gisèle Halimi parce qu'elle-même les a fait changer, les choses, à l'époque, en allant tout simplement conquérir des nouveaux droits, de nouveaux droits pour les femmes et de nouvelles libertés. Néanmoins, je crois qu'aujourd'hui, c'est encore compliqué dans notre société de faire confiance aux jeunes et de faire confiance aux jeunes femmes. Étant une jeune femme qui avait envie assez tôt d'avoir un impact, d'avoir accès à des responsabilités, j'ai en effet ressenti ce besoin d'avoir l'air un peu plus vieille que je ne l'étais pour qu'on me fasse confiance. Et j'aimerais que demain, la prochaine génération n'ait pas à le faire, parce qu'en réalité, il n'y a pas tellement de raisons qu'on ne fasse pas confiance à une jeune femme.
Et comment on fait alors pour paraître plus vieille finalement que son âge? Gisèle Halimi cite quelques astuces vestimentaires, de maquillage.
Bah, écoutez, moi, je crois qu'au contraire, c'est en se maquillant, je trouve que parfois on peut faire plus âgé que son âge. C'est une façon de s'habiller, c'est une façon de parler, c'est une façon de se comporter. Et quand on vous demande quel âge vous avez, parfois vous essayez de conserver une certaine ambiguïté. Mais c'est une stratégie que j'ai cessée depuis mes 29 ans. Aujourd'hui, j'ai 30 ans et au contraire, je me sens la responsabilité de dire que j'ai cet âge-là pour aussi montrer aux jeunes femmes qu'on peut, qu'elles peuvent accéder à des responsabilités en étant jeunes.
Et c'est vrai que ça ne vous a pas empêché de réussir. Vous avez décidé de vous imposer coûte que coûte, mais cela demande aussi, j'imagine, de grands sacrifices. Alors je pense notamment à la charge de travail très importante que vous devez abattre. Vous bossez tard le soir, les week-ends. Alors je ne sais pas trop si vous prenez même des vacances parfois. Comment vous gérez ça ?
J'ai certainement une très grande charge de travail. Aussi, la particularité de la vie d'un avocat, c'est que le travail est un petit peu imprévisible. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quand est-ce qu'un nouveau dossier va arriver. Évidemment, il y a certaines choses qu'on prévoit à l'avance, les audiences par exemple. Mais le nouveau dossier, on ne sait pas quand est-ce qu'il nous tombe dessus. Donc j'ai une vie qui est assez rock'n'roll. où je suis flexible, c'est-à-dire j'ai un agenda qui varie beaucoup, je m'ennuie du coup absolument pas. Mais en effet, j'ai une charge de travail très importante qui n'est pas sans conséquence sur ma vie personnelle, c'est certain. Néanmoins, ma vie professionnelle m'épanouit énormément. Et aujourd'hui, je suis contente de pouvoir consacrer ce temps-là à faire ce que j'aime. Néanmoins, évidemment, ma vie ne se limite pas à ça. J'ai des amis que j'adore, une famille qui m'est très chère. J'ai des plaisirs aussi. J'aime nager, voyager. J'aime danser aussi. Et je crois que c'est important de dire que oui, je travaille beaucoup, mais je ne suis pas que mon travail. Je suis aussi une femme de 30 ans qui a ses plaisirs et qui les chérit comme elle le peut. Mais je crois que ça reste compliqué pour les femmes de ma génération d'avoir de l'ambition, de l'assumer et que ce soit accepté par tous. J'ai l'impression que, évidemment, j'arrive à 30 ans, c'est un âge où on attend de vous parfois que vous vous mariez, selon les milieux sociaux, que vous ayez des enfants. Et c'est vrai que cette pression sociale commence à s'exercer et que je crois qu'il y a des avancées majeures dans la société qu'il faut mettre en lumière parce qu'en réalité, on progresse dans la liberté qu'ont les femmes de choisir pour elles-mêmes leur vie et leur destin. Et notamment, il y a une réforme qui a eu lieu sous le précédent quinquennat qui est importante. C'est la possibilité aujourd'hui pour les femmes en France de congeler leurs ovocytes si elles le souhaitent. Et malheureusement, je crois que ce n'est pas assez connu, je crois qu'on ne sait pas encore, alors que c'est pourtant quelque chose qui a vocation à donner aux femmes davantage de liberté sur le choix de leur vie. Et je crois donc que c'est une réforme, un droit, une liberté qui est un acquis absolument majeur pour les femmes.
C'est intéressant que vous veniez sur la question de la maternité et de concilier donc sa vie professionnelle et personnelle, parce qu'on l'a vu fin janvier dernier, les chiffres de l'INSEE ont jamais été aussi bas, enfin le taux de fécondité n'a jamais été aussi bas en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et l'une des explications, c'est que les femmes aujourd'hui sont éduquées, travaillent, ont des ambitions, comme vous dites, et le revendiquent un peu plus. Et la conséquence, c'est qu'effectivement, elles sont moins en couple ou ont moins d'enfants.
Je crois que les hommes ont aussi un petit peu de travail à faire pour accepter les femmes qui ont de l'ambition. Il y a aussi de leur côté des mentalités qui doivent absolument évoluer. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut encore faire évoluer les mentalités sur l'image qu'on se fait des femmes et sur l'image qu'on se fait des femmes mères et sur l'image qu'on se fait du rapport des femmes au travail. En réalité, moi, ce que j'aimerais, c'est que les femmes soient véritablement libres d'être mères et d'avoir une carrière. Seulement, il est vrai qu'aujourd'hui, encore trop souvent, on a le sentiment qu'on doit choisir. Et moi, je ne souhaite en tout cas renoncer à rien.
Oui, parce que dans les faits, c'est un peu la double peine pour les femmes qui en fait assument la double charge d'une carrière professionnelle parfois très prenante, mais aussi de tâches finalement plus domestiques, plus triviales. Et en fait, elles se retrouvent, c'est les premières à faire des burn-out en fait, les femmes. Donc c'est vrai que c'est un vrai sujet. Alors l'un des héritages majeurs de Gisèle Halimi, justement, c'est la légalisation du recours à l'avortement. Dans une tribune publiée dans Le Monde, vous avez indiqué être favorable à son entrée dans la Constitution le 8 mars dernier. La France est devenue le premier pays au monde à faire de l'IVG un droit fondamental. Comment est-ce que vous l'avez vécu en tant qu'avocate, féministe et activiste ?
J'ai vécu comme un moment absolument extraordinaire. Je me souviens le lendemain, le soir même, j'étais avec des amies à moi qui sont aussi des activistes féministes, pour n'en citer que quelques-unes, Flora Gebali, Elise Goldfarb, Shani Benwalid. Et je me souviens qu'on était sur un nuage. Et le lendemain, j'étais sur un plateau avec la présidente de la Fondation des femmes, Anne-Cécile Mayfair. Et on était encore sur un nuage. Et en réalité, c'est un moment, une victoire féministe importante que nous devons chérir et qu'il fallait célébrer. Évidemment, des combats, il y en a de nombreux autres et la lutte pour l'égalité est très loin d'être terminée. Mais je crois qu'il est important, et c'est pour ça que parfois j'aime me qualifier de féministe optimiste, je crois qu'il est important de célébrer les victoires. Parce que c'est un combat difficile, on traite de sujets douloureux, on parle beaucoup de souffrance, mais de temps en temps, quand on a des victoires comme celle-ci, il faut pouvoir y prendre de la force, de la joie, de l'énergie pour continuer. Alors c'était très important et j'ai eu la chance en plus quelques jours plus tard d'aller à New York à la conférence annuelle qui se tient sur la condition des femmes. C'est n'est autre que la plus grosse conférence féministe internationale qui se tient dans le monde chaque année. Et j'ai vu l'accueil que la France a reçu et j'ai vu l'importance que ça a à travers le monde, ce qu'a fait la France, constitutionnaliser la liberté d'avorter.
Surtout en ce moment aux États-Unis.
Aux États-Unis, mais j'ai vu aussi des représentants de différents pays d'Afrique, des Polonaises aussi qui sont venues nous voir. En fait, à travers le monde, ça a résonné parce que la France est au rendez-vous de la place qu'on attend d'elle parmi les nations en ayant fait cette avancée. Elle se place en leader, en protectrice des droits des femmes. Et je crois qu'il faut continuer dans cet élan et aller jusqu'à l'inscription de la liberté d'avorter dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Donc pour vous, c'est possible de vous servir du droit comme d'un outil de militantisme alors ?
Oui, c'est même un outil de militantisme exceptionnel. En fait, lorsque la société évolue, on va vers de nouveaux acquis. Et pour les concrétiser, souvent, pas toujours, mais il arrive qu'il faille changer la loi. Et ayant une connaissance des textes, ayant une connaissance de la justice, ayant une connaissance du droit, tout simplement, eh bien, je me plais, en tout cas, à me servir de ces compétences pour traduire dans la loi les volontés de la société.
Et sur quoi on devrait aller plus loin alors aujourd'hui, quelque chose d'essentiel à côté duquel on ne devrait pas passer selon vous là en 2024 ou en tout cas dans les années à venir ?
Oui, la loi c'est évidemment essentiel. Maintenant, l'enjeu c'est aussi de l'appliquer. Donc il y a aussi la question des moyens qu'on y donne, de comment on raisonne pour que la loi trouve une application concrète et puisse aider concrètement les gens. Je crois qu'évidemment, il faut continuer d'améliorer l'accueil des victimes de violences sexistes et sexuelles dans les commissariats, même si je le dis à votre micro, les choses ont beaucoup évolué vers du mieux.
Et un dernier mot enfin sur les atrocités perpétrées donc depuis le 7 octobre 2023 entre Israël et le Hamas. Vous vous exprimez régulièrement sur ce conflit. Vous en avez déjà dit deux mots hein, au début de notre échange, mais en quoi ça fait écho à votre propre histoire? Et là encore, pourquoi selon vous il faut que vous vous engagiez sur cette question de manière ferme?
Écoutez-moi, avant le 7 octobre, je n'avais jamais vraiment parlé publiquement de ma religion, la religion juive, de mon histoire familiale en réalité. Et depuis le 7 octobre, en fait, j'ai compris que je n'avais pas d'autre choix que de le faire, parce qu'en réalité, si on n'en parle pas, qui le fera? Et évidemment, moi, je pensais bêtement que ce combat contre l'antisémitisme, en réalité, c'était un combat peut-être du passé, que je n'aurais pas à m'y atteler. Eh bien, je me suis trompée. Alors évidemment, quand je vois l'antisémitisme ici en France, notamment s'exprimer dans les universités ou sur les réseaux sociaux, quand je vois aussi qu'en parallèle, on a aujourd'hui, d'après les sondages, dans 9 pays d'Europe, de l'Union européenne, des partis d'extrême droite qui devraient arriver en tête aux prochaines élections européennes, eh bien, je suis évidemment très inquiète et je crois qu'il est de mon devoir, notamment en tant que petite fille de déportée, de transmettre leur mémoire, de rappeler ce qu'a été l'histoire et de lutter de toutes mes forces contre l'antisémitisme.
Et contre l'amnésie, effectivement, collective. Alors maintenant, si vous le voulez bien, j'aimerais vous challenger sur un débat qui secoue la société. Le cyberharcèlement, est-ce la nouvelle arme de déstabilisation, d'humiliation des femmes en ligne? Alors vous êtes l'une des meilleures personnes pour parler de ce sujet, hein, puisque je l'ai dit, en 2020, vous avez cofondé en urgence l'association Stop Ficha afin de lutter contre les cyberviolences sexistes et sexuelles. Vous avez coécrit le livre Combattre le cybersexisme et enfin, vous avez remporté en mars 2024 un procès historique en matière de sanctions pénales contre les cyberharceleurs. Alors en quelques mots avant de parler de ça, qu'est-ce qui s'est passé en 2020 pour qu'il y ait une urgence à créer Stop Ficha? Qu'est-ce qui vous a touché à ce moment-là par rapport aux questions de cyberharcèlement? J'imagine que c'était lié au Covid et au confinement.
Oui, on était confinés. En fait, moi, j'ai été contactée sur les réseaux sociaux par une activiste féministe qui s'appelle Shanna Clément-McLaren, qui est la lanceuse d'alerte, véritablement, des comptes Ficha. Donc, c'est elle qui me contacte et qui cherche de l'aide parce qu'elle est face à ce phénomène majeur, énorme, incontrôlable, en fait, ces images à caractère sexuel qui sont diffusées sans consentement. Et elle veut aider les personnes qui en sont victimes. Alors, je me mets à travailler sur cette question à ses côtés. Et puis, en parallèle, elle fédère un groupe plus important. Et finalement, on se retrouve à 12 femmes à cofonder l'association Stop Ficha, qui a pour objet la lutte contre le cybersexisme et les cyberviolences sexistes et sexuelles.
Et vous, pourquoi le cyberharcèlement, c'est vraiment un sujet dont vous voulez vous emparer à titre personnel?
En fait, quand j'ai pris conscience de ce que se passait, j'ai surtout réalisé notre impuissance face à ce phénomène qui, pour autant, est très dangereux. Notre impuissance, parce qu'en réalité, on n'arrive pas vraiment à y mettre fin. Voilà. Donc, moi, ça, en tant qu'avocate, ça m'intéressait parce que j'ai vu qu'en fait, c'était quand même un phénomène relativement nouveau et qu'il fallait peut-être faire évoluer la loi, les droits, les moyens, comment on pense cette violence dans la justice. Donc, moi, ça m'a passionnée. C'est aussi un phénomène résolument moderne qui touche à des nouveaux outils, qui mêle à la fois des enjeux transnationaux, parce que quoi de plus transnational que les cyberviolences en réalité, et aussi des enjeux en lien avec ces grandes entreprises, les GAFAM, comment est-ce qu'elles exercent leur métier, dans quelles limites, quelles régulations on leur impose. Et donc, ça mêlait différents enjeux, d'autant qu'à cela s'ajoutait la cause féministe, parce que les femmes en sont davantage la cible. Mmh. Et pourquoi c'est un enjeu important? C'est parce que c'est un enjeu démocratique, tout simplement, parce qu'en réalité, souvent on oppose liberté d'expression et régulation, mais en réalité, tant qu'on ne régulera pas mieux, les gens ne seront pas vraiment libres de s'exprimer sur Internet et surtout les publics vulnérables. Donc il est là un enjeu démocratique majeur.
Et alors, début 2024, je le disais, vous avez défendu Magali Berda, la fondatrice de Shona Event, la plus grosse agence de stars de télé-réalité française. Alors, juste pour rappel, en quelques mots, pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi, mais il y a près de 2 ans, une guerre virtuelle a démarré entre la femme d'affaires et le rappeur Booba, avant de prendre un tournant judiciaire. Car Magali Berda raconte avoir reçu plus de 120 000 commentaires en ligne, et encore, elle a arrêté de compter misogyne, antisémite, des menaces de mort ou encore des appels au viol. Et il se trouve qu'en mars 2024, 28 de ces cyberharceleurs ont été condamnés à de la prison, dont 14 fermes. C'est une victoire historique et elle en parlait sur BFM TV il y a quelques semaines. On l'écoute.
Je suis très soulagée. Je trouve que c'est un message très fort que la justice a passé pour les victimes de cyberharcèlement et aussi pour les cyberharceleurs, de leur montrer qu'il n'y a pas d'impunité, qu'aujourd'hui, ils risquent de la prison ferme, puisqu'il y a 14 condamnations de prison ferme, ce qui est énorme. Et ça montre aussi aux victimes que le parquet qui a été, enfin, qui est neuf, hein, ce nouveau parquet, le PNLH, qui s'occupe de la lutte contre la haine en ligne, aujourd'hui est efficace et que l'OCLCH aussi, et que je tiens à remercier parce que c'est eux qui m'ont sauvé la vie, les services de gendarmerie qui ont fait ces interpellations, eh bien, ça vaut le coup de se battre et qu'il ne faut pas baisser les bras.
Alors, en quoi le chemin reste long et le chantier gigantesque pour encadrer légalement ces pratiques numériques ? Même si c'était une première, c'était une victoire, mais il faut aller plus loin aujourd'hui ?
C'est quand même plutôt encadré légalement, mais il y a d'ailleurs un texte qui est voté cet après-midi à l'Assemblée nationale, en tout cas j'espère qu'il le sera, qui vise à sécuriser et réguler l'espace numérique, qui apporte encore de nouveaux outils qui sont importants. Maintenant, en fait, la réalité, c'est que il y a trop de propos illicites qui sont tenus sur Internet, qui n'entrent pas encore dans le champ pénal. C'est le sens de l'amende forfaitaire qui doit notamment être votée cet après-midi à l'Assemblée nationale, et c'est une proposition que j'ai portée. Mais néanmoins, par exemple, je vais prendre un autre cas de figure, qui est un exemple parlant, mais la diffusion de photos sans consentement. Aujourd'hui, moi, j'ai aucune solution pour garantir aux personnes que j'accompagne que la photo ne sera pas à nouveau diffusée. Alors que pourtant, la diffusion d'une photo, notamment à caractère sexuel sans consentement, eh bien, ça peut causer énormément de tort. Donc on n'arrive pas encore véritablement à protéger les victimes sur Internet.
C'est vrai qu'on ne réalise pas les torts virtuels. Ça peut avoir un impact dans la vie physique, dans la réalité. C'est
évidemment,
ça, c'est ce passage-là.
Il n'y a pas deux mondes, il n'y a pas un monde virtuel qui serait différent de notre monde réel. Non, c'est des messages que vous recevez au quotidien, qui vous suivent partout, qui suscitent une peur lorsque ce sont des menaces, lorsqu'en plus ils viennent d'inconnus. Une peur qui peut être très importante et qui peut venir troubler en réalité toutes les dimensions de votre vie, que ce soit votre vie personnelle, familiale ou votre vie professionnelle. Et évidemment, la santé physique, la santé mentale, on connaît des histoires absolument terribles où il y a des suicides dans ces cas-là.
Et la justice, parfois, ne se fait plus dans les tribunaux, mais sur les réseaux sociaux, et si ce n'est parfois dans les médias. Mais c'est ça aussi le problème peut-être qui se pose aujourd'hui.
Oui, évidemment, moi je suis avocate et je suis très attachée à la présomption d'innocence, qui est un principe fondamental de l'État démocratique. Sans ça, on tombe dans l'arbitraire le plus absolu. Moi, j'aimerais que davantage de victimes, plutôt que de se livrer sur les réseaux sociaux, aient confiance à la justice et aillent déposer plainte. Et c'est pour ça que je vous le disais tout à l'heure, mais je trouve que c'est absolument essentiel de renforcer ce lien de confiance entre la justice et les victimes, notamment de violences sexuelles. Parce que si aujourd'hui, elles préfèrent se confier à des journalistes ou sur les réseaux sociaux, c'est bien qu'il y ait un problème. Parce que, en réalité, la médiatisation des affaires, c'est une violence pour tout le monde, hein, pour la personne qui dénonce les faits, mais aussi pour le mis en cause, évidemment, pour la société tout entière, parce que ça viole nos principes fondamentaux. Mais du coup, je pense que si la justice savait suffisamment écouter et recevoir cette parole, en réalité, il n'y aurait pas grand intérêt à aller dans les médias.
Et alors du coup, pour finir, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour limiter ce déferlement de haine en ligne ? Est-ce qu'il faut renforcer les contrôles, durcir les sanctions, sensibiliser les utilisateurs eux-mêmes à ces pratiques numériques ?
Les trois. Je crois qu'il faut évidemment améliorer la régulation, la coopération des plateformes, continuer à montrer que ce n'est pas impuni, parce que pour prévenir la commission d'infraction, montrer qu'elle sera punie, c'est important. Ça fait partie des choses qui permettent d'éviter à ce qu'elle soit commise. Et derrière, il faut sensibiliser à ce que c'est que les violences en ligne, à ce qu'on cause aux autres, parce que c'est des violences qui, comme on est loin de la personne qui en est la cible, eh bien, sont en réalité parfois réaliser, en tout cas imposer, sans se rendre compte du mal qu'on cause. Donc c'est important de sensibiliser aux conséquences et aux risques que l'on prend, c'est-à-dire au risque d'aller en prison.
Et maintenant, Rachel Flore, on va finir cet échange avec la minute cap ou pas cap. Le principe est simple, je vous pose quelques questions rapides et légères, vous me répondez uniquement par cap ou pas cap, c'est parti. Rachel Flore Pardo, cap ou pas cap de ne pas aller sur Insta de toute une journée?
Cap.
Cap ou pas cap d'improviser lors d'une plaidoirie?
Cap.
Cap ou pas cap de mentir sur votre âge pour vous attribuer une affaire?
Cap.
Cap ou pas cap de prendre plus de 2 semaines de vacances?
Cap.
Cap ou pas cap d'abandonner le droit pour le journalisme?
Pas cap.
Cap ou pas cap d'avoir 3 enfants comme Gisèle Halimi?
Cap.
Cap ou pas cap de taper du poing sur la table pour que l'IVG soit inscrite dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne?
Cap.
Est-ce que vous auriez un conseil à donner à celles et ceux qui nous écoutent pour faire preuve d'audace ?
En fait, moi, je pense que faites ce qui vous plaît et allez-y à fond. Voilà, n'écoutez pas ceux qui veulent vous arrêter, n'écoutez pas ceux qui vous disent que c'est une mauvaise idée. Si ça vous plaît, si vous êtes passionné, si vous y croyez, allez-y.
Merci beaucoup Rachel Flore.
Merci.
Merci également à vous, toutes et tous, de nous avoir écoutés. C'était le 4e épisode de Femmes de défi. Comme d'habitude, je compte sur vous pour me faire des retours, me suggérer d'autres invités dont vous aimeriez découvrir le parcours. Et bien sûr, je compte sur vous pour en parler autour de vous tout en mettant quelques étoiles sur les plateformes d'écoute. En attendant le prochain épisode, je vous embrasse et vous dis à très vite.